spécial qui regarde le baromètre théologique, alors, délicat, très délicat. On pourrait revenir au terme, j'aimerais mieux que maintenant. Alors, question posée par rapport à ce qu'on a dit hier, qui complète, je pensais du reste revenir dessus. Parce que hier, j'ai fait le fil à plomb. Comprenez bien. Ce que j'ai dit hier ne pourrait pas être dit avant saint Thomas. Ça, c'est sûr. Et c'est pas parce que j'aime saint Thomas que je dois pas en parler. Hein. Je dois regarder saint Thomas dans l'Église. Or, il est de fait théologien qu'on considère comme, l'Église considère comme le plus sûr, celui qui forme. Le père Congar, je le prends toujours avec moi parce que je l'accompagne comme ça, le père Congar, donc on peut discuter sur certains points, c'est bien évident. Dans une conférence qu'il a donnée à Fribourg, c'est pas à cause du contexte, c'était sa vérité, ce qu'il pensait. Il disait, dans le monde d'aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au point de vue théologique, on voit qu'il n'y a que Thomas d'Aquin qui peut former. Il le disait un peu à regret. Moi, je ne le dis pas à regret. Un peu à regret, je comprends très bien. Parce que ça a l'air un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on garde était sensible à ça. Comme le père Chenu, à l'histoire. C'est très bien d'être sensible à l'histoire. Mais il ne faut pas être sensible à l'histoire pour tout. Dès qu'on est au niveau de la foi, l'histoire est vue dans la lumière d'éternité. Le Christ, c'est pas parce qu'il est né à Jérusalem que ça me chagrine. Il aurait dû être au XXe siècle, comme ce serait mieux. Poussière devant l'éternité. Ça ne modifie pas ma foi. Absolument pas. C'est très important de m'approcher de lui, mais pour la foi. Pour la foi dans le sens profond, pour ma contemplation. Le Christ est vivant, il est actuel. Eh bien, saint Thomas est actuel pour le théologien. Si vous regardez le point de vue historique, vous devez le regarder, mais il ne détermine pas votre regard. Que vous avez de la peine à le comprendre, tout à fait d'accord, on est tous comme ça. Moi j'ai fait l'expérience combien de fois? Je commence à faire des cours de théologie, puis au bout d'un certain temps, je me dis maintenant, on est peut-être capable de lire saint Thomas. Je lis saint Thomas, personne n'accroche. Personne. Difficile d'enseigner Thomas d'Aquin aujourd'hui. Il faut des cercles archithomistes. Et ça se fait dans des salons. C'est pour vous montrer, n'est-ce pas ? Ou dans des caves, si vous aimez mieux. Parce que, tu vois, ça s'est fait dans des caves. Il y avait du vin à côté, ça allait mieux. Vous voyez, on donne une théologie que nous vivons. Ça passe, parce qu'on la vit. Saint Thomas reste toujours un maître. Et quand vous enseignez saint Thomas, vous l'enseignez comme un maître, pas autrement. Parce qu'il reste un maître dans l'Église. Et qu'on a beaucoup, beaucoup de peine aujourd'hui d'écouter un maître. Parce qu'il y a l'autorité. Et l'autorité sur l'intelligence, c'est la pire des autorités. Dans le siècle d'aujourd'hui, on accepte encore une autorité dans l'ordre pratique pour balayer vers la cuisine. Et même par la cuisine, celui qui est responsable de la cuisine, comme il a de la difficulté d'exercer l'autorité sur des sœurs admirables. Comme c'est difficile. Et c'est vrai, c'est toujours très difficile. d'exercer l'autorité. Demandez à un prieur. Comme c'est difficile d'exercer l'autorité. Et l'autorité sur l'intelligence, aujourd'hui, ça ne marche plus. Alors c'est pour ça qu'on a tout le temps beaucoup de peine, parce qu'on le verra au terme, mais vous comprenez qu'hier, ce que je vous l'ai dit exprès, avec toute la force que ça représente. Seule une philosophie réaliste, au sens le plus fort, c'est-à-dire qui touche le jugement d'existence, et qui comprend que la vérité nous est donnée dans le jugement d'existence, l'adéquation de ce que je dis à la réalité présente et existante. Ça, on ne peut pas nier ça. Si vous niez ça, ça prouve que vous n'avez pas compris la philosophie réaliste, tout simplement. C'est triste, mais ça prouve que vous n'avez pas compris la philosophie réaliste. Il faut ce jugement d'existence. Parce que la foi nous donne la réalité divine, res, comme dit saint Augustin. Puisqu'elle nous met en communion avec la réalité, je ne peux pas atteler un âne et un bœuf. Alors, faites la comparaison, hein, avec toutes les allégories des pères. Je ne peux pas atteler ma foi à un jugement, à une philosophie qui n'atteint plus le réel, qui est idéaliste. Parce que je ferai dévier ma foi. À la place d'entrer plus avant, je la dévie. Déviation. Et la finalité est ostienne. Vous comprenez que pour ça, il faut une métaphysique. Une philosophie première de ce qui est en tant qu'il. Ça a été l'œuvre de saint Thomas, ça. Et je crois qu'on ne pouvait pas le dire avant saint Thomas, c'est comme toujours. La théologie, puisque c'est une œuvre d'Église, c'est une œuvre des hommes d'Église, c'est l'œuvre des serviteurs. L'Église n'a pas dit avant, il faudra arriver à cette théologie. Jamais. Les pères de l'Église ont préparé. La théologie est une œuvre, c'est pas ce qu'elle est plus élevée. D'être serviteur. Ce qui est le plus élevé, c'est la contemplation qui est au-dessus. Et je ne dis pas du tout que pour la contemplation, il faut nécessairement lire tout saint Thomas. Pas du tout. L'Esprit Saint est libre à lire saint Thomas. Tout à fait libre. Heureusement. Mais si on doit être des serviteurs dans l'Église, autant que possible, on va auprès de ceux qui sont les meilleurs. Formé aujourd'hui, il y avait encore que saint Thomas. J'ai entendu, de mes propres oreilles. J'ai dit, je ne peux vous conseiller personne. Il y a que Thomas d'Aquin qui peut former au point du théologique. C'est pour ça que, comprenez bien ce que j'ai dit hier, c'est sûr, saint Thomas était derrière. Vous l'avez compris. Et je ne peux pas dire autrement. Autrement, je bifferais. De l'histoire de l'Église, Thomas d'Aquin. J'ai pas le droit de le faire. Quand l'Église me dit que c'est le théologien commun. Commun, ça veut pas dire du tout, hein, en dessous de tout. Ça veut dire tout simplement le théologien qui nous donne le mieux ce que représente la théologie. Bon. Alors, cela ne veut pas dire du tout qu'il s'agit de répéter saint Thomas. Il s'agit de le comprendre. Et de le donner pour notre monde d'aujourd'hui. Vous pouvez faire des traductions de saint Thomas, c'est très bien. Mais c'est pas ça. Il faut pouvoir vivre intellectuellement, divinement, à Thomas d'Aquin. Ce qui met beaucoup, beaucoup de temps. Ça c'est sûr. Je comprends très bien que dans un siècle où on est pressé, Thomas d'Aquin n'est pas celui qui nous permet de faire de la théologie rapide. Sûrement pas. L'expresso, c'est pas saint Thomas. me demande du temps. Ça, c'est impossible autrement. Comme toute vraie philosophie, ça demande du temps. Il faut accepter que mon intelligence mette du temps à s'éveiller. Elle met du temps. Alors certains vont un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est rejeter la vérité. Alors, la question. Quelle anthropologie pour la christologie et la théologie de la vie chrétienne? Alors, je dirais. Une anthropologie qui est liée à une philosophie première du bien. Du bien qui est un mode particulier de l'acte, du bien qui existe. Et l'anthropologie regarde le bien de l'homme, le bien humain, mon bien. Donc une anthropologie qui a le sens de la finalité. Puisque mon bonheur, c'est mon bien, c'est ma fin. Une anthropologie finalisée, pas une anthropologie des valeurs, c'est pas suffisant. Quand on regarde comment sont nées les valeurs dans la philosophie, on s'aperçoit que les valeurs sont nées comme un ersatz de la finalité. Alors, ne prenons pas un ersatz lié à la parole de Dieu. Voyez, c'est très bien les valeurs, je suis tout à fait pour les valeurs. Mais je prends le train en marche. Je dis les valeurs, mais comprenez bien ce que c'est que les valeurs. C'est la finalité. Parce que la philosophie des valeurs est née dans une terre philosophique idéaliste, n'ayant plus que la causalité exemplaire qui a remplacé la causalité finale. Et alors on a essayé, à travers la causalité exemplaire, de se redonner un idéal, les valeurs, un idéal humain, respecter les valeurs. Mais les valeurs, en réalité, cachent une vraie finalité. Les valeurs, c'est pas la personne. Vous n'avez jamais dit à un ami que vous aimez, vraiment, tu es ma valeur. Je vous regarderai drôlement. Quand vous dites à un ami, tu es ma valeur, oui. C'est auprès de toi que je juge toute chose comme ma valeur. Il vous regarderait, il dit, mais est-ce que tu m'aimes ou pas? On aime une personne. Donc, l'anthropologie finalisée, c'est l'anthropologie d'un amour, d'amitié à l'égard d'une personne. Une anthropologie qui découvre que l'homme a en lui une capacité de contemplation. En découvrant l'existence d'un être premier, Dieu, il est fait pour découvrir Dieu et l'aimer et le contempler. Je crois qu'une anthropologie qui ne serait pas une anthropologie personnaliste au très grand sens, c'est-à-dire qui montre que l'homme n'est parfaitement homme que s'il se dépasse. Il y avait ici quelqu'un qui venait demander un sujet de thèse doctorat. Il me disait, est-ce que ce ne serait pas très intéressant de travailler chez Aristote le mot anthropos? Parce qu'on parle toujours d'anthropologie. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour Aristote? Ce serait un très beau sujet. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour Aristote? À tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est qu'une anthropologie, enfin, quand on a une philosophie première? c'est très important. Qu'est-ce que ça représente? Mais on voit tout de suite qu'une anthropologie réaliste saisit l'homme finalisé. L'homme recherchant le vrai. L'homme recherchant le bien humain qui est la personne. Et le recherchant élément. Donc c'est l'homme qui se dépasse. L'homme n'est parfaitement homme que quand il se dépasse. Une anthropologie n'est une véritable anthropologie que quand elle est ouverte à la contemplation. Et la contemplation présuppose, pour qu'elle soit bien fondée, une philosophie première. Une anthropologie qui est coupée de la philosophie première ne peut pas coopérer à une vraie christologie, à une vraie vie chrétienne. C'est-à-dire une anthropologie, vous voyez, qui est liée à une sagesse. L'anthropologie par elle-même n'est pas sagesse. Elle atteint la prudence, qui est une sagesse pratique, mais qui n'est pas la sagesse. Alors vous voyez, on en aboutit à ça. Et c'est ça qui est important à voir, c'est qu'au fond, il faut une sagesse pour coopérer à la foi. Une vraie sagesse. Et la philosophie ne peut coopérer à la parole de Dieu que si elle est sagesse. Alors on pose la question pour la psychologie, c'est la même chose. La psychologie est une partie d'anthropologie. Vous savez bien, les psychologues, au bout d'un certain temps, aboutissent à une anthropologie. La psychologie ne se termine que sur une conception de la personne humaine. Et là, c'est là tous les équivoques. Ah, vous voyez, cette psychologie aboutit à une personne humaine. Mais quelle personne humaine? Est-ce que c'est une personne humaine qui contemple son nombril? Ou est-ce que c'est une personne humaine qui veut se dépasser? Est-ce que c'est une personne humaine qui demeure dans l'immanence? Ou est-ce que c'est une personne humaine vraiment finalisée? La psychologie, ne, par elle-même, si je prends uniquement la psychologie, qui reste dans le comment, dans le comportement de l'homme, qui n'atteint pas le pourquoi explicitement, elle peut l'appliquer, elle ne l'atteint pas, elle ne l'explique pas. La finalité n'est jamais dans le comment. Petite étude très simple à faire. Regardez toutes les causalités et regardez le conditionnement de toutes ces causalités. Et posez-vous la question, y a-t-il un conditionnement de la fin, de la finalité? Vous voyez, vous pouvez chercher le conditionnement de la cause matérielle, le conditionnement de la cause efficiente, le conditionnement de la cause formelle. Très bien. Posez-vous la question, y a-t-il un conditionnement de la fin? Il faut vous poser la question. Je ne vous demande pas de la résoudre tout de suite. Vous pouvez la résoudre si vous êtes déjà posé le problème. C'est intéressant, ça. Y a-t-il un conditionnement de la fin? Alors vous allez dire, c'est le vécu de la fin. Oui. C'est le vécu de ma finalité. Mais vous comprenez que très bien, le vécu de ma finalité n'est pas ma finalité. Le vécu de votre amour n'est pas l'amour. Quand vous dites à votre ami, j'ai beaucoup vécu de l'amour que nous avions eu ensemble. Ah, tu as pensé à moi, tu as pensé qu'à toi. Oui. Je me suis enfermé dans la joie que j'avais de te retrouver. Et j'étais complètement oublié dans cette joie. Vous ne redécouvrez pas à partir du vécu la finalité. Mais vous avez une retombée atomique de la finalité dans le vécu, de l'amour. Donc, au point de vue psychologie, c'est la même chose. Une psychologie qui qui est renfermée sur elle-même ne peut pas coopérer à la parole de Dieu sans la diminuer. Oui, c'est toujours ça. On peut coopérer avec Dieu, on peut atteler n'importe quoi avec n'importe quoi, mais de savoir si on fait un sillon droit, si on est orthodoxe, si on est dans la ligne droite, si au contraire, on diminue. Et à force de diminuer, on n'atteint plus la parole de Dieu. On ramène tout à l'humain. Vous voyez, je crois que Nietzsche dirait, demeurez dans la psychologie, vous découvrez toujours l'homme. Quand il dit, dans la ville, je ne saisis que l'homme. Au désert, dans l'océan, dans la montagne, je saisis Dieu. Tu vois, Dieu me parle. Dieu me sollicite. Bien, c'est la même chose. La psychologie, tout le temps la psychologie, ne me met pas en présence du transcendant. Mais, comprenons bien, nous le verrons. Et là, je rejoindrai la question posée, mais que je poserai après, dans le climat théologique d'aujourd'hui, qu'est-ce que le baromètre indique à propos de Hans Urs von Balthasar, souvent loué journalistiquement comme un des plus grands théologiens de notre siècle. C'est vrai, un des plus grands théologiens de notre siècle. Je vous ai déjà dit, la première conférence que j'ai entendue de Urs Balthasar, c'est quand je suis arrivé à Fribourg, en 45. Je suis arrivé le matin, le soir, conférence de Urs. Alors évidemment, nous étions tous là, tous. Il y avait le père Journet, tout proche, parce qu'il avait de la peine d'entendre, déjà à ce moment-là, un peu sourd, donc juste sous le nez. Balthasar. Moi, j'étais assez haut à côté du père de Ménas. Parce que c'est lui qui me prenait en charge. J'en écoutais cette conférence. Les disciples, quand le Christ est absent, se disputent. Très beau petit thème. Les théologiens, quand ils ne sont plus contemplatifs, se disputent. C'est au moment où on discutait beaucoup par rapport à la théologie de Balthasar. Donc, vous voyez très bien l'astuce. Dans la conférence, Urs Balthasar a dit « Les peines de l'enfer sont-elles éternelles ?» La miséricorde de Dieu est si grande, infinie. Peut-elle tolérer que les peines de l'enfer sont éternelles? Bonne interrogation, simplement. Comme ça. Dit de telle manière qu'on voyait bien une recherche, une discussion, parce que c'était la discussion, si on était là-dessus. Alors à la fin de la conférence, dégringolé à toute vitesse avec le père de Ménas, point tout près de Balthasar. On est arrivé juste au moment où le père Journet sortait. Il était déjà un petit peu avancé. Et Urs Balthasar avançait vers lui. Et il lui disait, vous me mettez en enfer. Interrogation. Et le père Journet a répondu, je vous aime encore. Magnifique comme dialogue. Vous allez voir tous les deux. Parce qu'à ce moment-là, c'était un peu la lutte entre les deux. Mais Balthasar après. Parce que le premier Balthasar, il fallait le voir. J'ai lu certains articles, tout à fait, quand il était encore avec. ce n'est que du néo. Être thomiste à nos jours, c'est du néo-thomiste. Oui. C'était l'ouverture, on savait très bien ce qui se passait à ce moment-là. J'avais reçu le secret d'un père jésuite que je connaissais un peu. Je connaissais surtout son frère, mais donc je le connaissais lui. C'était le père Bernard. Comme on disait en Nord, pas les grands, les petits. Parce qu'il y a les grands Bernard et les petits Bernard. Et là, c'était le petit Bernard. En RT. Alors, c'était qui faisait de la psychanalyse? Qui disait ouvertement dans les congrès, j'ai deux maîtres, Ignace et Freud. Dit ouvertement. Et je me suis trouvé avec lui, donc je le connaissais indirectement, parce que c'est lui, on fait nos études dans le même collège, et j'avais très bien connu son frère, donc il me connaissait par son frère, et moi je le connaissais par le mien, parce qu'il était là, Gilbert Thomas. Donc on se retrouvait proches. Et on pouvait dire ouvertement les choses. Alors il a dit ouvertement, la compagnie veut montrer que Thomas d'Aquin est un théologien parmi beaucoup d'autres, mais qu'il faut supprimer ce maître. Supprimer élégamment, c'est-à-dire le contourner par un point de vue stratégique. Donc, on va tous être spécialistes à père de l'Église. Et on va relativiser par là, saint Thomas. Il a dit ça ouvertement. Il s'agissait du péché originel. Toujours la lutte, là. Et il y avait le secrétaire du cardinal de Paris, à ce moment-là, le cardinal Verdier, qui était un sulpicien. Gilles-là. On allait fort, hein, parce qu'on était ensemble, on pouvait y aller. En disant, vous n'avez rien compris à Saint-Thomas, vous le mettez dans l'histoire et vous le comprenez comme histoire, comme ça. Alors évidemment, est-ce que vous acceptez qu'il y a un progrès en théologie? Je vais le pincer, là. Est-ce que vous acceptez qu'il y a un progrès en théologie? Il n'a pas voulu répondre. J'ai dit, est-ce que vous faites ça retour en arrière? Rétro. Est-ce qu'il y a un progrès en théologie ou pas? Je n'ai pas voulu répondre. Vous reconnaissez un progrès en psychologie? Ah oui, Freud. Alors, vous connaissez qu'il peut y avoir un progrès dans la pensée. Et vous jugez tout au niveau de l'histoire. Et le pugilat là s'est fait violent. Puis l'autre a assisté en silence. D'un certain temps, c'est quitté en bon ami, mais ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il avait dit. La compagnie veut remettre en pleine lumière les pères de l'Église pour relativiser Thomas d'Aquin. Pour montrer que, vous voyez, le pluralisme théologique, tout simplement. On y reviendra, parce que c'est intéressant cette question du pluralisme théologique. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut le retour des sources chrétiennes. Retour au Père de l'Église. C'est une très belle œuvre. Et on est tous très heureux que ça se fasse. Mais tout dépend de l'intention. Je ne dis pas que c'était la compagnie, c'était le Père Bernard. Il ne faut pas juger la compagnie à partir du Père Bernard, parce qu'alors toute la compagnie aurait deux maîtres, Freud et Saint-Ignace. Ce que la compagnie n'accepterait pas. Mais lui le disait. Alors, il est parti, le secrétaire du cardinal m'a dit, en bon sulpicien, je commence à comprendre qu'il est utile de connaître Thomas d'Aquin. Parce que je vous avoue, il m'a dit, je n'ai rien su répondre au père Bernard. Je vois que vous avez une formation de saint Thomas et vous pouvez montrer ce que saint Thomas apporte à l'Église. le droit de supprimer Thomas d'Aquin. On ne le répète pas, mais on se forme auprès de lui. Non pas pour le dépasser, mais pour comprendre ce que c'est que la psychologie, ce que c'est que la théologie, telle qu'il nous l'a donnée. Alors, comprenez bien, parce que ça c'est quand même très important, il y a des quantités de théologiens qui n'ont pas du tout été formés au point de vue profond, philosophique et philosophie première, métaphysique. Alors on va les exclure, pas du tout. C'est là où il faut être très attentif. Ce que nous faisons ici, vous voyez, nous essayons de comprendre. Je ne dirais pas ça dans n'importe quel milieu. C'est bien évident. Ce n'est pas la peine de blesser. Ici, c'est le but de l'école Saint-Jean. Comment c'est pas la peine que l'école Saint-Jean existe. On a dit qu'on chercherait la vérité jusqu'au bout. Dans un dialogue qui reste ouvert. Mais non, on la cherche la vérité jusqu'au bout. Saint Thomas a existé dans l'Église. Et l'Église l'a toujours recommandé. Vatican II aussi. L'Église n'a pas mis à la porte. Certains théologiens le mettent à la porte. C'est sûr. Le condamnent même. Saint Thomas a été condamné implicitement par la Sorbonne. Et ça a joué. Parce qu'on a considéré que Thomas d'Aquin était un retour vers le païen. Alors que Avicenne était un croyant. Et Thomas d'Aquin quittait Avicenne pour revenir à Thomas d'Aquin. Pour revenir à Aristote. Et on l'a condamné là-dessus. Tout de suite. C'est quand même très très curieux. Et pas l'Église. La Sorbonne de Paris. Ce qui a fait que Thomas d'Aquin n'a pas joué le rôle qu'il aurait pu jouer dans l'Église. Ça a joué beaucoup, ça. Et on est retourné à Avicenne, Henri de Gand. Tout de suite. Et après Henri de Gand, Don Scott. Et c'est un éclectisme. Pas abandonner Thomas d'Aquin, mais quand même ne pas abandonner non plus Avicenne. Alors on essaie de... Vous voyez, c'est important au point de vue historique, ça. C'est très intéressant au point de vue historique. Parce que j'ai un peu étudié Henri de Gand. Parce qu'à ce moment-là, quand c'était, on remettait en valeur Henri de Gand, on le remettait très fort. Et c'est intéressant historiquement de voir comment, de fait, le coup de boutoir sur saint Thomas qu'a lancé la Sorbonne, ben oui, a fait que saint Thomas n'a pas pu avoir l'influence qu'il aurait pu normalement avoir. Donc, comprenons bien, il ne s'agit pas de déterrer Thomas d'Aquin, il ne s'agit pas de faire un néo-thomisme, il s'agit de comprendre avec intelligence ce qu'est Thomas d'Aquin et être théologien du monde d'aujourd'hui. Théologien de la fin du XXe siècle. Alors, on a le droit de choisir ses maîtres, c'est pas interdit. Mais ce qu'on doit faire, c'est être théologien du monde d'aujourd'hui, de l'Église d'aujourd'hui. Et ne pas répéter Thomas d'Aquin. On a le droit de faire des articles sur Thomas d'Aquin et des thèses sur Thomas d'Aquin. C'est tout à fait juste. Mais vous n'allez pas prêcher Thomas d'Aquin, quoi. Et vous n'allez pas toujours sortir Thomas d'Aquin. Non. Et dans les discussions œcuméniques, qu'il soit à Fribourg et Lausanne, hélas, je vois que c'est tout dans les autorités. Thomas d'Aquin, Luther, Luther et Augustin, on n'avance pas. L'œcuménisme ne peut se faire qu'aujourd'hui. Grande théologie de l'œcuménisme, Jésus face à la Samaritaine. Jésus dépasse cette discussion par une recherche de vérité. Alors, comprenez bien, il y a diverses façons d'être théologien. problème n'était pas posé. Il sera posé quand on verra la diversité de la théologie, ou le pluralisme théologique, les différentes approches du théologien. Quelqu'un qui n'a pas fait de métaphysique. Je me souviens, Père Danielo, il me l'a dit textuellement. Je l'aimais beaucoup. Et on s'entendait très bien, on s'aimait beaucoup. On faisait des confidences, Danielo. Je lui ai demandé un jour de lire quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ce problème de la diversité des approches au point de vue théologique. J'ai dit, j'aimerais avoir votre avis. Alors il m'a dit, je ne pourrai pas vous donner un avis qui vous intéressera. Parce que je ne suis pas philosophe et je le regrette. Je suis entré dans la compagnie étant normalien, étant agrégé. On m'a dit, vous, c'est pas la peine de faire des études de philosophie. On oubliait que la littérature n'est pas la philosophie. Et j'aurais aimé faire des études de philosophie. Et j'en ai pas fait. Alors je suis resté historien. Je me suis mis à étudier l'histoire des pères. Ça, je peux le faire. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je reconnais une lacune. Et on n'a pas fait faire de philosophie. Et je reconnais que pour être un vrai théologien, il faut être philosophe. Mais c'est intéressant comme témoignage. Parce que il reconnaissait, quand il était cardinal, qu'il pouvait être un merveilleux historien, et il l'a été pour les pères de l'Église, et qu'il ne pouvait pas vraiment aller jusqu'au bout de la théologie. Ça, je trouve ça très beau, vous voyez, on reste dans l'ordre de la disposition, on aide. C'est évident qu'en étant un bon patrologue, on aide énormément les théologiens. Et on aide à la théologie d'aujourd'hui. Les pères de l'Église restent toujours les pères de l'Église. Revenir aux pères de l'Église, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est l'eau mousse dans laquelle on pourra pousser quelque chose. Mais les pères de l'Église ont eu un fruit dans mon appel. Sa bonne aventure. C'est quelque chose de très grand. Et alors, si on n'a pas cette possibilité d'avoir une vraie métaphysique en acte, c'est pas avoir suivi un cours de métaphysique, mais une métaphysique en acte, c'est-à-dire que notre intelligence est capable de penser à ce niveau-là et de réfléchir à ce niveau-là. C'est très difficile d'entrer à fond dans Thomas d'Aquin. Très difficile. On pourra l'écouter, on pourra comprendre sa grandeur, mais que ce soit vécu, que ce soit quelque chose qui fasse partie de notre structure. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quelqu'un qui est un psychologue et qui est croyant peut aider le théologien, peut donner des approches. Quelqu'un qui est un excellent historien peut donner des approches. Les pères de l'Église restent les pères de l'Église, donc des sources vivantes, actuelles. Les pères grecs, les pères latins, les cappadociens, on peut tout le temps y revenir et on doit tout le temps y revenir. Mais on n'a pas le droit, et les pères de l'Église nous condamneraient tous, j'en suis sûr, si on mettrait entre parenthèses Thomas d'Aquin. Mais la tactique moderne, c'est Maxime le Confesseur doit remplacer Thomas d'Aquin. Ce n'est pas dit, mais c'est implicite. C'est Maxime le Confesseur. Alors quand le père Danielou a remis en valeur Maxime le Confesseur, il ne faisait pas du tout, lui, en opposition avec Thomas d'Aquin. Pas du tout. Et certains le font. Il faut comprendre ça. Les luttes intestinales. Alors aujourd'hui, ces luttes sont dépassées. d'une certaine manière, parce qu'on veut mettre en lumière plutôt les idéologies athées, les réintroduire à l'intérieur d'une théologie. C'est pire. C'est-à-dire faire une nouvelle théologie.